au 99.1-88.9-CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Ben nous sommes mardi, c'est le 2 décembre. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moins 8 degrés actuellement au cœur de la Naudière avec le vent. Ça donne quelque chose comme moins 12 et on se prépare pour pas mal de froid dans les prochaines heures. À l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, il sera question évidemment du Parti libéral du Québec là, qui s'enlise. Marois Risky qui est exclu du caucus et les allégations aussi de financement illégal. Dans la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. On aura aussi l'occasion de recevoir à l'émission Hélène Desjardins. Elle est directrice de tourisme. La Naudière, il sera question de code d'éthique en matière de tourisme. Aussi à l'émission André Saint-Martin. Il est copropriétaire du monastère des Moniales de Berthierville. Mais tout d'abord, l'imposition de la loi 2 causerait la fermeture d'une quarantaine de cliniques médicales au Québec. Et selon un recensement qui a été effectué par le Journal de Montréal, il y a des dizaines de cliniques médicales ou de groupes de médecine familiale, les fameux GMF, qui pourraient manquer de revenus et de médecins qui veulent y travailler. On a recensé 4 cliniques ou GMF là, qui pourraient fermer dans la Naudière, mais c'est, semble-t-il, seulement la pointe de l'iceberg. Et Michel Arnoy a eu l'occasion d'en parler avec la docteure Lynn Couture, qui est présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides, la Naudière.
Madame Couture, dans le Journal de Montréal de ce matin, on parle de l'imposition de la loi 2 qui causerait la fermeture d'une quarantaine de cliniques médicales et de groupes de médecine familiale au Québec et dans la Naudière également. On est rendu là?
Malheureusement, oui. Et puis, j'avoue que je pensais que vous alliez me dire comment ça qu'on a que quelques noms alors que dans notre sondage, on en avait plus. Parce qu'il faut comprendre que c'est dévastateur. Hein? Quand on annonce la fermeture d'une clinique, imaginez l'angoisse pour les patients, pour tout le monde. Alors, c'est absolument dévastateur. Celle que vous avez ce matin dans le Journal de Montréal, c'est que eux, ils sont prêts à assumer cette dévastation-là, parce que pour eux, effectivement, là, y a pas à moins d'un revirement de dernière minute, là, très, 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 très rapide, il n'y aura pas de point de bascule, malheureusement, là.
Pour le bénéfice de nos auditeurs, je rappelle que on mentionne dans l'article que ce sont les groupes de médecine familiale Saint-Paul et des affluents à Repentigny. On parle également du groupe de médecine familiale Berthier-Saint-Jacques à Berthierville et finalement la polyclinique médicale Pierre-Legardeur à Terrebonne. Vous me dites qu'il y en a beaucoup plus que ça de votre côté?
Absolument. On avait fait un sondage il y a environ 2 semaines et ce qu'on avait retenu, c'est qu'il y en avait environ 12, en fait 13 pour être précis, qui, sous le couvert, qui nous avaient donné leur nom, là. C'est pas qu'on les a pas, ces noms-là, mais c'est qu'ils ne nous autorisent pas pour l'instant à les donner grand public.
C'est surtout les frais fixes ou le départ de certains médecins qui fait mal?
Ben, ce sont les deux, hein, parce que vous comprenez que, en fait, les cliniques médicales au Québec, ce sont des entreprises qui sont créées par les médecins de famille, là, hein, c'est littéralement ça. Le gouvernement, oui, à travers les groupes de médecine familiale, donne une petite part pour le budget, de l'ordre autour d'une 30%, je vous dirais, pour les frais d'opération. Mais vous comprendrez que 70% des frais d'opération d'une clinique, ça vient de la poche des médecins de famille. Alors, si y a plusieurs médecins qui quittent, le fardeau financier reste sur celui des autres médecins. Alors, c'est, et si en plus votre rémunération baisse, et on sait qu'en première ligne, la loi 2 vient baisser la rémunération des médecins de famille de près de 40 à jusqu'à 65%, ben, vous comprenez que les mathématiques arrivent pas. Là, à un moment donné, c'est mieux de fermer boutique puis d'aller faire autre chose.
La loi 2 ne vous permet pas d'être traité comme une petite et moyenne entreprise. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire des amendements à cette loi-là pour justement tenir compte du fait que vous avez des frais importants en clinique?
Écoutez, moi, je vous dirais, il y a ça, c'est un des facteurs. La loi 2 a tellement de choses à amender. Je vous dirais, à la limite, faut scraper et on recommence, là. Mais on va évidemment laisser à la Fédération le soin de négocier. Vous savez qu'on a quand même cet espoir-là actuellement qu'il y a une reprise des négociations là avec la FMOQ. Alors, on va espérer qu'effectivement, on ait des nouvelles positives avant Noël, parce que si c'est pas le cas, malheureusement, il va être trop tard. Là.
Selon vous, est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel?
Ben écoutez, moi, je peux pas faire autrement qu'être optimiste, parce que je ne peux pas penser que effectivement, on va perdre autant de cliniques. Ça serait la plus grande catastrophe qu'on n'a pas vue en service de santé. En tout cas, j'imagine depuis à peu près l'assurance maladie. Là. Alors, je peux pas penser que ça va être le legs de François Legault que d'avoir fermé autant de cliniques. Enfin, j'espère que c'est pas le legs qu'il veut laisser. Mais s'il change pas d'avis rapidement, s'il fait pas des amendements puis des changements majeurs rapidement, ça va être ça le legs de François Legault.
Est-ce que ça peut être aussi, ça peut avoir autant d'impact que le départ à la retraite des infirmières?
Oui, moi je pense que c'est tout à fait comparable et ça risque d'être même pire. Parce que les cliniques qui ferment, c'est puis les médecins qui partent, c'est encore plus long à remplacer un médecin qu'une infirmière. Puis déjà, les infirmières, on le vit encore. Hein? Alors, donc ça va être une catastrophe. Puis quand une clinique ferme, c'est toute l'expertise qu'il y avait aussi avec le médecin, ses infirmières, ses travailleurs sociaux. Vous allez me dire, ah, ils vont se relocaliser. Oui, mais à un moment donné, il faut falloir qu'ils se relocalisent à quelque part. Donc, et c'est toute la population qui est laissée en plan. C'est surtout ça le problème. C'est les premières victimes, c'est la population.
Ben, la docteure Lynn Couture qui tient son bout. Je vous rappelle qu'elle est présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentide, La Naudière. Et on lisait d'ailleurs dans le journal de Montréal de ce matin là qu'une quarantaine de cliniques médicales, là, de groupes de médecine familiale aussi qui pourraient fermer leurs portes carrément. Et dans La Naudière, on en a recensé 4. Alors là, on commence vraiment à voir la réalité. Là. La réalité s'en vient. Là. Elle s'en vient très rapidement. Il est 16h14 dans les prochaines minutes. André Saint-Martin, il est copropriétaire du monastère des Moniales de Berthierville.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 30 novembre. Gagne 133 et 33 avec la ligne DB, Ginette Durand de Saint-Zénon, grâce à une carte achetée au dépanneur Kildare à Saint-Ambroise. Annie Middleton de Saint-Barthélemy, une carte achetée au dépanneur du Boulevard. Et Guy Richard de Crabtree, qui s'est procuré sa carte chanceuse au marché Tradition Beaulieu. Gagne 4 000 $ avec sa carte pleine. Hélène Lamontagne de Joliette, une carte achetée au dépanneur 350 de Notre-Dame-des-Prairies. Et 600 $ a été remis à Gilles Wolfe de Saint-Alexis-de-Montcalm grâce à sa carte pleine de la deuxième chance procurée chez Shell à Saint-Jacques. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5 000 $ en prix avec les 3 jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4 partout dans la Naudière, dans la MRC de Masquinongé en Mauricie, sur la rive sud en Montérégie et au centre du Québec. La liste complète de nos dépositaires est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. Section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption.
Les soldes fous sont commencés chez Jean Coutier. C'est le moment idéal pour faire plaisir à vos proches et à vous aussi. Des offres à ne pas manquer, disponibles pour un temps limité seulement. Jusqu'à dimanche, les brosses à dents électriques Oral-B sélectionnées sont à $49,99 chacune. Et de vendredi à dimanche seulement, obtenez une carte cadeau Jean Coutu de $15 pour chaque $75 d'achat de cosmétiques. Profitez des soldes fous chez Jean Coutu. Certaines conditions s'appliquent. Détails à jeancoutu.com.
En ce moment, c'est le Vendredi fou chez Rona. Et qui dit Vendredi fou dit nos meilleures offres de l'année.
Genre sur
ben des produits.
Impossible. Pas sur les lumières de Noël Lendon & Co. sélectionnées.
À 50% de rabais?
Ben non. Puis les toilettes allongées 2 pièces Spezia, elles?
À 50% aussi?
Ben ouais. Puis le rouleau de peinture aromatisé?
Hey, arrête d'inventer des affaires. On n'en vend pas de ça.
Je te testais.
Ah! Profitez de ces offres-là jusqu'à mercredi durant le Vendredi fou chez Rona. Des conditions s'appliquent. Plus d'offres au rona.ca.
Concours Calendrier de l'Avent.
40 jours pour les 40 ans.
L'indice du jour, décoration.
CFNJ.
Lanaudière PM, immobilier.
Il est 16h17, on s'attend à des développements dans la saga du monastère des Moniales dominicaines de Berthierville. Il y a deux fonctionnaires du ministère de la Culture et même un ingénieur en électricité qui se sont rendus sur place la semaine passée, vendredi. Ils n'ont pas pu accéder au bâtiment en raison de la contamination, notamment à l'amiante et la dangerosité évidente là, de l'endroit. Et qui plus est, on dit qu'un individu a été vu a tenté de s'emparer de morceaux de cuivre au monastère. Et le cible, semble-t-il, la cible de voleurs, de vandales depuis de nombreuses années. François Morin en a discuté avec un des propriétaires, André Saint-Martin. Il explique que depuis que Québec a décidé de classer le bâtiment patrimonial, personne n'a manifesté d'intérêt.
Depuis que c'est arrivé, il n'y a pas personne qui a manifesté le désir de prendre le monastère. Les sœurs ont essayé depuis 2011, quand ils ont quitté, de trouver un acheteur. La ville de Berthierville n'en veut pas. Il n'y a pas personne qui en veut. Puis le ministère de la Culture s'était comme engagé à essayer de trouver quelqu'un. Eux non plus n'ont pas été capables. Fait qu'on est vis-à-vis un fiasco total.
Les sœurs, vous l'avez vendu en bonne et due forme. Et là, tout d'un coup, dans l'espace de 24-48 heures, Québec a décidé de mettre un holà là-dessus. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué pourquoi?
Non, exactement. C'était la grande surprise quand ça est arrivé. Parce que les sœurs, à prime abord, à la fin des années 2016-2017, m'ont approché pour essayer de vendre la terre et le monastère. Et la terre, on était intéressés, mais le monastère n'avait rien à faire avec ça. Les sœurs ont essayé de trouver un acheteur, puis ils n'en ont pas trouvé. Et ils savaient très bien qu'il n'y a personne qui en voulait. Puis la seule raison pourquoi on a fait l'acquisition du monastère, c'était parce que c'était une démolition. C'était la seule solution qu'il y avait à faire.
Là, le ministère vous force à entretenir le ministère. Le monastère, ça fait des années. Je pense que la facture est d'ordre public. Là, ça va coûter une beurrée aux deux entreprises, aux deux propriétaires. Là.
OK. Effectivement, c'est eux se rabattent sur la loi 26 disant qu'un propriétaire d'une bâtisse patrimoniale, il faut qu'il chauffe, qu'il l'éclaire. Nous, on l'a pas acheté dans le but de la réparer, on l'a acheté dans le but de la démolir, parce que autant les sœurs avaient des problèmes majeurs, il n'y avait plus le chauffage dans le bâtiment, etc. Et il y avait des coûts astronomiques. Puis c'est un bâtiment qui a pas été comment entretenu les 10, 15, 20 dernières années. Les sœurs n'avaient pas les moyens. Et il n'y a pas personne qui peut, exemple, mettre une bâtisse à date, on le voit. Là, les gens disaient que ça pouvait coûter jusqu'à 1 million par porte. Le gouvernement fait des RPA. Puis on voit, on a un dossier ici à Saint-Élisabeth que c'est comme désastreux. Fait qu'il n'y a rien à faire là, avec le monastère.
L'avez-vous offert, le monastère, au ministère?
On a offert au monastère, on lui a offert de lui redonner les clés. On a demandé au gouvernement d'en prendre possession puis d'en faire ce qu'ils veulent. Eux, le gouvernement, ils ont des bâtisses puis ils vendent le bâtisse. Ils sont prêts à les céder parce qu'ils voient les coûts astronomiques en ce qui concerne l'entretien, puis la rénovation, puis la réparation. Fait qu'on ne peut pas être plus être fort que le gouvernement. Le gouvernement n'en veut pas, puis là, il essaye de l'imposer aux propriétaires, que nous, on soit responsables du chauffage, de l'éclairage, de la ventilation, etc.
Vous passez maintenant par le tribunal administratif. C'est à peu près votre dernier recours, je comprends bien.
Oui, parce que le tribunal administratif va être là pour essayer d'accélérer les dossiers. Parce que suite à la Cour avait dit, vous n'avez pas demandé au ministère de la Culture un permis de démolition, vous l'aviez demandé juste à la Ville. On a fait la demande, ça a pris un an et quelques mois avant d'avoir une réponse, qui aura dû être dans les 60 jours. Et la réponse, eux disent qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette bâtisse-là, mais ils veulent pas en prendre la responsabilité.
Puis vous ont demandé de déposer des projets.
Exactement. Ils nous demandent de déposer des projets. On a comme des millions d'investis là-dedans. Et chaque fois que le ministère, on demande de partir le projet, parce qu'il y avait une terre qui était complètement indépendante du monastère, puis le ministère ne veut pas qu'on développe la terre tant ou si longtemps que le monastère ne sera pas reconstruit ou réhabilité.
Mais on le disait tantôt, c'est que personne n'en veut en raison de son état actuel. Ça va, plus on va attendre, plus ça risque de coûter cher.
Oui, exactement. Les travaux ont fait, le ministère a fait des travaux, ont été chercher un jugement pour faire des travaux, qui avaient des réparations à faire, puis qui avaient de la décontamination enlevée de l'ordre de 200-300 000, et on monte un bill de 900 à 1 million de dollars. Et aujourd'hui, la sécurité n'est pas là, le chauffage n'est pas là, il y a du vandalisme tous les jours, etc., etc., c'est invivable.
Est-ce que ça pourrait se régler d'une certaine façon si la Ville vous accordait finalement le fameux permis?
La Ville...
Un autre permis, dans le fond.
Ben, la Ville a accordé le permis. Là, le seul problème, c'est que le ministère de la Culture, la lettre a été adressée au ministre Lacombe. Ça va être un déclassement comme ils ont fait à Château de Beauce, comme ils ont fait à Stansted, comme partout ailleurs où que les gens, les villes peuvent citer, le gouvernement va classer, puis les villes, les bâtisses, on peut pas toutes les sauver. Ici, à Berthierville, il y a une église d'une très belle qualité de 300 quelques années, le presbytère, puis ça va être demain ces bâtisses-là qui vont avoir le même problème. Ça, c'est des bâtisses qu'il faut sauver, qu'il faut garder, parce qu'ils ont de l'âge, puis c'est réellement. On peut pas, comme dans toutes les villes, toutes les municipalités, puis tous les maires l'expliquent, on peut pas sauver toutes les bâtisses patrimoniales. On n'a rien contre le patrimoine, mais ça, il faut essayer de faire un jugement, puis garder les plus belles bâtisses.
Il faut que les gens comprennent qu'on... Justement, on peut pas tout garder, surtout cette bâtisse-là qui est inutilisable. À part la structure en béton, là.
C'est ça, exactement. C'est que, il y a juste, mais la conformité de tous les bâtiments, puis les plafonds avaient comme 12, 13, puis 14, 15, 16 pieds de haut. C'est des bâtiments qui, à l'époque, avaient pas les mêmes coûts de construction qu'aujourd'hui. Puis les corridors ont, à l'époque, les plans avaient été faits. Les corridors étaient censés avoir 6 pieds. Les plans ont été faits à 6 mètres. Les gens, quand ils en ont aperçu, étaient trop tard. Il y a un paquet d'affaires qui est plus au goût du jour et des coûts astronomiques à investir là-dedans. Il n'y a pas personne. Puis le gouvernement, comme tel, eux, ont dépensé 2-3-4 millions pour essayer de le garder patrimonial. Mais là, c'est l'argent du public. On se trouve à payer deux fois. Puis il n'y a rien qui avance. Fait que dans le cas de Berthier, c'est un fiasco total.
Ça coûterait combien à remettre ça à neuf? Ben, selon les normes, là.
Ben, on nous avait demandé des plans pour essayer de sortir, exemple, mettons, 21 portes pour un RPA ou 22 condos. On a fait les estimer. Un était de 29 millions de dollars, puis l'autre était de 27 millions. C'est RPA, c'est on envoie le gouvernement construire. Ils sont pas capables de respecter les évaluations qui sont données. C'est des 25-30 millions investis, mais la bâtisse n'est pas faite pour ça. Faut le défaire, ça.
Il n'y a pas de date d'audience encore devant le tribunal administratif. En attendant, vous faites quoi?
Très bonne question. Nous, le bâtiment, comme je vous dis, on nous tient responsable. C'est un bâtiment qui n'est pas assuré, qui n'est pas assurable. Puis les gens tous les gens de Berthier sont unanimes à dire que cette bâtisse-là ne devrait pas, s'il n'y a pas un vœu à essayer d'exprimer puis d'en rentabiliser quelque chose. Il y a tellement d'investissements à faire dans la bâtisse que les gens ont des priorités à faire. Puis en ce qui concerne le monastère, je pense que c'est pas l'acceptabilité sociale qui est locale.
Donc là, vous êtes prêt à payer encore tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une décision de rendu.
Exactement.
Bon, voilà, c'est un des copropriétaires du monastère des Moniales de Berthierville qu'on écoutait. Il se nomme André Saint-Martin. Il est 16h25 sur la scène culturelle. On apprend que 2 ans après le décès de l'auteur, compositeur et interprète lanaudois Jean-Pierre Ferland, ben, son héritage musical va revivre sur scène. Sa conjointe Juliane Saumur, qui habite toujours Saint-Norbert sur le domaine de Jean-Pierre Ferland, va s'entourer entre autres de Joanne Blouin, Kevin Parent, Marc-André Fortin pour présenter le spectacle « Le petit roi pour toujours ». Il se sera présenté à travers le Québec en 2026. On dit qu'en tout, ce seront une quarantaine des succès de Jean-Pierre Ferland qu'on va présenter sur scène avec des projections de photos et d'images d'archives sur écran géant. Le spectacle va débuter du côté de Montréal en septembre prochain. Dans un moment, on va retrouver Pierre Jubinville avec l'actualité.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est passablement lent depuis l'avenue Marien. Voie de service, là, je vois que c'est carrément arrêté, là, très, très lent dans la voie de service. Et ça demeure dense là, sur la métropolitaine jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN. Traversée facile vers la rive nord, Repentigny, ben, juste avant Repentigny, quoi, à l'approche de la 640, là, c'est lent. Repentigny, ça circule quand même pas si mal, malgré qu'on est un petit peu nombreux là, dans le secteur industriel Valmont. pour la suite des choses, ça va bien. La route 341, entre la 40 et la rivière L'Assomption, c'est très dense. Pont Le Gardeur, un petit peu nombreux là à franchir la rivière des Prairies, là, mais quand même, ça roule assez bien. L'approche est facile. 25 Nord, c'est depuis le boulevard Lévesque à Laval où c'est plutôt dense. Et ça le demeure jusqu'à un petit peu passé la jonction avec la 440. Terrebonne, ça va bien. 25 Nord, Mascouche également. Pont-Sophie-Masson circule sans problème et finalement, pas si mal pour la 640 dans les deux directions entre la 25 et puis la 40. Les nouvelles dans un instant.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction avant, location 60 mois, à partir de seulement 89 $ plus taxes par semaine, sans aucun comptant initial. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Les soldes fous sont commencés chez Jean Coutu. C'est le moment idéal pour faire plaisir à vos proches et à vous aussi. Des offres à ne pas manquer, disponibles pour un temps limité seulement. Jusqu'à dimanche, les brosses à dents électriques Oral-B sélectionnées sont à $49,99 chacune. Et de vendredi à dimanche seulement, obtenez une carte cadeau Jean Coutu de $15 pour chaque $75 d'achat de cosmétiques. Profitez des soldes fous chez Jean Coutu. Certaines conditions s'appliquent. Détails à jeancoutu.com.
Attention, Jean de Saint-Gabriel. Le dimanche 14 décembre de 10h à 14h, le Père Noël débarque à la station Arnois rue Saint-Gabriel pour vous gâter. Les 100 premiers clients Arnois repartiront avec une carte cadeau de $25. Et ce n'est pas tout. On continue la fête avec un rabais de 10 cents le litre sur votre prochain achat d'essence. Venez rencontrer le Père Noël et ses lutins. Ambiance familiale et festive garantie. Le dimanche, dès 10h à la station Arnois au 150 rue Saint-Gabriel. Ho, ho, ho! On vous attend. Des conditions s'appliquent.
Envie d'un repas qui fait toujours plaisir? Chez Crabtree Pizzeria, on vous sert les classiques que tout le monde aime. Avec des succursales à Joliette, L'Assomption, Lavaltrie, Crabtree et Saint-Jean-de-Matin, vos plats préférés ne sont jamais bien loin. Découvrez nos pizzas généreusement garnies, nos poutines bien chaudes et nos frites croustillantes préparées chaque jour avec soin. Que ce soit pour un souper en famille, un dîner pressé ou une fringale du soir, Crabtree Pizzeria, c'est le goût d'ici tout près de chez vous. Crabtree Pizzeria, simple, bon et toujours satisfaisant.
Les manchettes de ce 2 décembre, les députés libéraux sont en colère. Des propos du nouveau ministre de la Culture fédérale, Mark Miller, qui sème la controverse. Et l'Union des municipalités veut protéger les travailleurs étrangers. Mais tout d'abord, Pierre Jubinville, Marois Risky, là, qui est mise à la porte là, par le Parti libéral.
Oui, elle est officiellement expulsée du caucus. C'est le chef du parti, Pablo Rodriguez, qui lui reproche d'avoir rompu le lien de confiance. Elle avait d'abord été suspendue pendant 2 semaines après le congédiement de sa chef de cabinet. Monsieur Rodriguez a même affirmé, étonnamment, avoir amorcé des discussions pour réintégrer Geneviève Hinsse dans ses fonctions de chef de cabinet.
Ces 2 dernières semaines, elle a fait beaucoup de tort au Parti libéral du Québec. Elle a fait du tort à toute notre équipe, à ce qui était son équipe. Elle a fait du tort à tout le travail qui a été accompli par énormément de gens, incluant des bénévoles partout à travers le Québec. En choisissant d'agir seule, elle s'est placée elle-même au-dessus du parti. Et je vais le dire franchement, il n'y a personne, aucun d'entre nous qui est plus important que le parti.
Dans une déclaration solennelle, Mme Risky indique qu'elle prend acte de la décision du chef de l'expulser du caucus, mais elle insiste pour dire que depuis le jour 1 de son élection à titre de députée de Saint-Laurent, elle représente ses citoyens avec dévouement et rigueur. Elle tient à leur réitérer et à leur assurer qu'elle les représentera avec la même hauteur, ce à titre maintenant de députée indépendante.
Oui. Et par ailleurs, les députés libéraux qui se sont clairement donné un mot d'ordre.
Oui, il y a une sorte de ligne de parti. Les nouvelles allégations font mal, on le sait, au Parti libéral. Et les députés se disent en colère, demandent qu'on fasse la lumière rapidement.
Bon, voilà, on avait possibilité d'avoir un reportage.
Alors, ils ont tous dit qu'ils étaient choqués noirs, comme
oui.
on dit.
Oui, oui.
Et je pense que c'était une ligne, la ligne du jour, mais les gens veulent qu'on en finisse au plus rapidement.
Oui, on peut comprendre que du côté du Parti libéral, là, c'est quand même difficile là, actuellement.
Il y a un sondage?
Oui, sondage qui vient tout juste d'être publié, d'ailleurs, ouais. Un sondage léger sur le Parti libéral.
Claude, qu'à peine 43% des sympathisants libéraux font maintenant confiance à Pablo Rodriguez, plus que à Marois Risky. Selon le sondeur, la crise a pris trop de temps à se régler. En fait, elle ne l'est toujours pas, ce qui a contribué à effriter la confiance des libéraux envers leur chef. Ça n'augure rien de bon à 10 mois des élections.
Et on va écouter un reportage de Louis Lacroix là, sur, justement, l'expulsion de Marois Risky.
Les jeux individuels, c'est terminé.
Pablo Rodriguez en a assez de Marois Risky.
Je lui ai demandé qu'on se parle. Elle refuse de le faire. Ça suffit.
Le chef libéral expulse la députée de Saint-Laurent à l'origine des déboires de son parti depuis maintenant 2 semaines.
Elle a fait beaucoup de tort au Parti libéral du Québec.
Entre-temps, avant même de connaître les conclusions des différentes enquêtes, Pablo Rodriguez négocie avec son ex-chef de cabinet, congédié par Marois Risky.
J'ai amorcé des discussions pour intégrer Geneviève Hince dans ses fonctions de directrice de cabinet.
Et le chef libéral veut faire le ménage au parti. Si des gens ont commis des gestes illégaux, ils en subiront les conséquences.
Je mets ces gens-là dehors. Assez, c'est assez, et ils subiront toutes les conséquences prévues par la loi et les règlements.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Bon, scène fédérale maintenant, 24 heures à peine après sa nomination, il y a le ministre Mark Miller qui se met les pieds dans les plats.
Faut-il rappeler que Mark Miller est ministre de l'Identité, de la Culture et des Langues officielles. Il s'est dit tanné de l'éternel débat sur le déclin de la langue française, un enjeu qui, selon lui, est trop politisé.
Ce que je refuse, c'est ce catéchisme que veulent certains partis politiques pour dire que le français est en recul total, parce que la réalité dans tout ça, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, notamment les nouvelles depuis plusieurs décennies, grâce à la loi 101, grâce à l'entente Canada-Québec qui a donné la mainmise à l'immigration francophone au Québec, où ça devrait l'être. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, mais le français, je vais le répéter, immensément fragile en Amérique du Nord, il faut le protéger.
Mais faire un tour à Montréal, vous allez voir que le français est vraiment en recul. Là, on parle anglais en majorité maintenant à Montréal, hein?
Oui, absolument, 43% de seulement de francophones, mais ces propos-là de M. Miller a frappé, a piqué au vif le premier ministre Legault.
Quand on regarde les derniers chiffres qui sont disponibles, on voit que depuis 2 ans, donc de 2022 à 2024, le pourcentage de francophones à Montréal est passé de 48% à 43%. Puis là, Mark Miller, le nouveau ministre fédéral de la Culture, vient dire qu'il est tanné du débat sur le déclin du français. Quelle honte! Mark Miller, là, c'est une honte pour tous les Québécois. Je sais pas comment il va faire pour se présenter dans une activité culturelle au Québec après avoir dit des conneries comme ça.
Bon, ben dans le domaine de la santé, maintenant, Pierre, certaines cliniques médicales de Lanaudière pourraient concrètement fermer.
C'est un recensement effectué par le Journal de Montréal. Des dizaines de cliniques ou groupes de médecine, les GMF, pourraient manquer de revenus et de médecins voulant y travailler. Dans Lanaudière, on parle de 2 groupes de médecine familiale de Repentigny, soit les GMF Saint-Paul et le GMF des Affluents. Il y a aussi, plus près de nous, le GMF Berthier-Saint-Jacques à Berthierville. Et finalement, la polyclinique médicale Pierre Legardeur à Terrebonne. On va écouter la docteure Lynn Couture.
Mais vous comprendrez que 70 % des frais d'opération d'une clinique, ça vient de la poche des médecins de famille. Alors, si y a plusieurs médecins qui quittent, le fardeau financier reste sur celui des autres médecins. Alors, et si en plus votre rémunération baisse, et on sait qu'en première ligne, la loi 2 vient baisser la rémunération des médecins de famille de près de 40 à jusqu'à 65 %, ben, vous comprenez que les mathématiques n'arrivent pas. Là, à un moment donné, il est mieux de fermer boutique puis d'aller faire autre chose.
Il y a l'Union des municipalités du Québec, Pierre, qui veut protéger les travailleurs étrangers.
Oui, elle réclame une clause de droit acquis pour 70 000 travailleurs étrangers temporaires qui sont à risque de devoir quitter le pays. Si le Canada refuse, elle souhaite que le Québec obtienne la gestion complète du programme. Les représentants de l'UMQ rencontraient aujourd'hui les chefs des partis à Québec. On écoute le président de l'UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Moi, j'invite le premier ministre, je suis prêt à y aller avec lui, d'aller me promener dans les régions du Québec, faire le tour des Tim Hortons, de voir la réalité de ces régions. Dans ces régions-là, là, on parle pas pantoute des tarifs de Donald Trump, on parle vraiment de la réalité de la main-d'œuvre en entreprise. C'est phénoménal et c'est vraiment peut-être différent d'ailleurs dans des grands centres, mais ces réalités-là des régions du Québec, elle est vraiment importante.
Bon, maintenant, un grand ménage dans le code criminel contre les discours haineux, je pense que ça va faire du bien.
Oui, le gouvernement a accepté l'amendement du Bloc qu'il a présenté pour abolir l'exception religieuse qui permettait les discours haineux à la chair kawi.
Ah ouais, ben oui.
Sous couvert de la foi dans le code criminel.
Bon sens.
Alors non, en effet. Député de Repentigny, Patrick Bonnet, affirme qu'un discours qui fomente la haine est un acte criminel.
Concrètement, notre amendement vient abolir la disposition qui empêchait de porter des accusations si quelqu'un prétendait simplement exprimer une opinion religieuse. On se souvient tous des propos d'Adil Sharkawi en 2023 alors qu'il avait évoqué l'idée de recenser et exterminer des personnes. Malgré la gravité, il n'y avait pas eu d'accusation à cause de cette exception-là.
Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les fameuses caisses libres dans certains commerces. Semble-t-il que ces caisses libres inciteraient les gens à voler?
Moi, je les déteste, mais...
Moi aussi.
Wow, absolument. Écoute, Claude, les caisses libres-service, donc, c'est une enquête du Journal de Montréal qui révèle que 57 % des vols à la caisse sont survenus parce que les clients n'arrivaient pas à scanner l'article.
Ah, ben,
alors, les gens mettaient ça dans leur panier.
Puis, ben, c'est ça.
Bye-bye.
Que le diable l'emporte.
C'est ça. Une autre étude démontre que dans 15 % des cas, les vols ont été faits de manière volontaire. Et à la suite de ces nombreux vols, certains détaillants ont décidé d'abandonner les caisses libres-service.
Mais quand le scan ne fonctionne pas, oubliez pas qu'il y a des caméras quand même qui vous surveillent. Et
principe,
finalement,
oui.
On se pose la question s'il faut resserrer la loi sur les pourboires.
Il y a une nouvelle loi qui est en vigueur depuis réglementation depuis mai dernier. Et les terminaux de commerçants contiennent des messages persuasifs. Ça continue pour influencer le consommateur, finalement, à augmenter le montant du pourboire. C'est une pratique qui est maintenant interdite. Option consommateur demande au gouvernement de limiter les types d'établissements qui peuvent solliciter un pourboire. On écoute Alexandre Plourde. Il est avocat et analyste chez Option consommateur.
Là, ce qu'on voit, c'est vraiment une inflation du pourboire à un très grand nombre de commerçants. Ça peut être des boulangeries, ça peut être des professionnels, ça peut être des mécaniciens. On voit vraiment de tout, toutes sortes de commerçants qui peuvent demander du pourboire.
Bon, ben Pierre Jubinville, merci pour ce bulletin complet.
Oui, très complet. Bonne soirée.
Bonne soirée. Il est 16h40.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. Lanaudière PM. Tourisme.
Tourisme Lanaudière dévoile le premier code d'éthique du visiteur lanaudois. On veut rappeler qu'il faut respecter l'environnement et adopter une attitude de savoir-vivre. Ça va de soi. Pierre Jubinville en a parlé avec Hélène Desjardins, elle est directrice chez Tourisme Lanaudière.
Hélène Desjardins de Tourisme Lanaudière, un premier code d'éthique voit le jour en matière de tourisme. Pouvez-vous nous en dire plus?
Absolument, ça va me faire plaisir. Le code d'éthique, c'est un projet qui a été, entre autres, financé par le Plan Montagne. La ministre du Tourisme de l'époque, Mme Caroline Proulx, a distribué en fait des sommes pour les régions qui avaient, en fait, dans leur territoire, là, des zones montagneuses, simulé les pôles de montagne. Dans notre cas, on a 4 belles stations de ski, des beaux grands parcs régionaux. Alors, on a développé, avec la concertation du milieu, une forme de pas une carte de visite, mais à l'envers, une carte de bienvenue pour vraiment s'assurer qu'il y ait une harmonisation entre les comportements des visiteurs qui viennent, dans le fond, bénéficier de nos milieux naturels, mais aussi d'une belle cohabitation également avec les citoyens. Alors, c'était ça l'objectif.
Mais pourquoi un tel code? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il y a des, il y avait des problèmes d'identifier déjà?
Ben, on a, oui, on s'est penché en comité justement de travail avec les acteurs touristiques du milieu, ainsi que d'autres citoyens là sur des potentiels de problématiques de cohabitation, notamment là sport motorisé, pôle de montagne, des fois des séjours en villégiature, chasse et pêche, même chose. Donc il y a des corridors plein air aussi là non motorisés là, donc il y a des enjeux parfois de cohabitation. Bien sûr, on est des Lanaudois, alors qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a amené sous forme humoristique, mais ça indique quand même aux visiteurs ben de s'assurer qu'il y a vraiment un savoir-être peut-être ou une utilisation. Des fois, le visiteur est pas conscient, mais quand on vient, par exemple, louer un chalet, ben il y a des citoyens aussi autour. Donc, on s'en vient faire la fête et autres. Mais ce qu'on peut appeler, en fait, des nuisances, ben ça peut être atténué. Parfois, c'est juste en informant ou en diffusant de plus d'informations là, pour permettre aux visiteurs d'adopter le comportement approprié là, qui va favoriser, dans le fond, un développement touristique plus harmonieux, là.
Ouais, c'est ça. L'objectif, c'est de oui, de protéger l'environnement, mais aussi d'imposer une sorte de savoir-vivre hein, sur les lieux touristiques.
Exactement, exactement. Ben, en fait, c'est surtout ça. On pourrait penser, par exemple, à la vitesse dans les sentiers pour les qu'il y a du sport motorisé. Bon, j'ai parlé tout à l'heure un petit peu des enjeux en villégiature avec les chalets, mais ça peut aussi être dans le temps de la chasse ou de la pêche. Il y a peut-être des comportements entre les usagers, les marcheurs, quand ils vont emprunter des sentiers. Il y a de l'adaptation aussi. Donc, c'est vraiment de s'assurer que notre développement touristique vienne, oui, protéger nos milieux naturels, mais aussi vraiment favoriser un développement durable puis une cohabitation qui est saine.
Il va y avoir des capsules qui vont accompagner la démarche après?
Des capsules, mais aussi des outils visuels. Par exemple, là, présentement, au marché de Noël de Joliette, il y en a là des affiches, en fait, pour permettre aux gens de respecter les lieux, d'assurer une propreté, de faire une saine utilisation, par exemple, des bacs de gestion de tri, de déchets ou autres. Donc, c'est toujours fait sous forme de l'humour, là. C'est quelque chose qui vient aussi s'ancrer dans nos valeurs régionales. C'est pas quelque chose qu'on a sorti de notre chapeau toute seule, l'équipe de Tourisme Canadien, mais bien avec les acteurs du milieu, les citoyens, les municipalités qui ont participé là, à l'élaboration de ce code d'éthique-là. Là.
Vous avez participé aujourd'hui à une conférence de presse pour Ski Montcalm. Il y a plus d'1 600 000 qui ont été attribués à la station de ski. Quels sont les travaux qui vont être réalisés?
Ben, dans le cas de l'annonce qui a été faite par la ministre du Tourisme pour Ski Montcalm, c'est plusieurs phases de travaux, des systèmes d'enneigement, de la modernisation de la station de ski, mais aussi de la bonification de l'expérience client. Là, d'ailleurs, il reste une phase à déployer qui va être ouverte en fait aux touristes, puis aux visiteurs. Là, les usagers vont pouvoir avoir une expérience nocturne au Ski Montcalm qui vient bonifier l'expérience. Le ski de soirée également qui n'était pas disponible. Là, ça va être praticable dans notre région. C'en est un exemple. Alors, c'est de cette façon-là que le programme PARIT là, du ministère du Tourisme est venu soutenir la station de ski. Il y a eu également l'annonce de la ministre par rapport à l'entente de partenariat régional qui a été annoncé ce matin. Donc, le ministère annonçait 2,1 millions, dans lequel Tourisme Canadien mettait 1 million et le ministère du Tourisme 1,1 million. Donc, ça, c'est aussi une autre façon de soutenir là, les promoteurs sur le territoire, nos entreprises touristiques qui manquent pas d'imagination puis qui sont prêtes à venir bonifier l'expérience du client.
Quelle est justement l'importance de la station de ski dans le paysage touristique, la Daudois?
Ben la station de ski Montcalm, c'est une station qui est là depuis 1969. Donc c'est une entreprise familiale, John Barnowski et Johanna, sa sœur Barnowski, qui dirigent la montagne de ski, le font de façon très harmonieuse. C'est une station qui est à proximité aussi du bassin métropolitain. Là, on est à moins d'une heure là de Montréal, mais aussi à 30 minutes environ là des banlieues. est de Montréal. Alors, ça peut être une belle façon de pratiquer puis d'initier aussi les jeunes familles au ski. Alors, ils ont vraiment l'angle familial. Ils ont développé notamment leur tapis volant, si on veut, pour permettre aux jeunes de qui sont en initiation de gravir la pente et puis de favoriser leur apprentissage en descente douce. Et puis, ils ont vraiment une belle vision aussi du développement durable afin d'allonger la saisonnalité, parce qu'on se cachera pas que la pression que les changements climatiques viennent occasionner pour des entrepreneurs comme eux, il faut vraiment qu'ils revisent leur façon de bonifier l'offre de leur entreprise auprès de la clientèle.
Ben voilà, c'était Hélène Desjardins, c'est la directrice de Tourisme Lanaudière, donc Tourisme Lanaudière, qui dévoile le premier code d'éthique du visiteur lanaudois. C'est bien beau recevoir du monde dans notre région, mais encore faut-il que ces gens-là prennent soin de notre environnement. Dans un moment, Jacques Plante.
Écoutez-moi, je vais vous parler d'un restaurant très bien coté. C'est sûr que tu vas bien manger, peu importe ce que t'as commandé. Une poutine ou un top sandwich, une grande pizza avec des frites pis tout ça servi dans une belle salle à manger.
Moi aussi j'aimerais bien ça si on pouvait se faire livrer.
Appelle chez Crabtree Pizzeria, une bonne pizza pour toi pis moi.
Appelle chez Crabtree Pizzeria, une bonne pizza pour toi pis moi.
Crabtree Pizzeria Joliette, 80 La Joie Nord, 450-756-6111.
Puis ça fait 53 ans qu'on fait votre pizza.
Ben oui, c'est la meilleure!
Chez Moto du Charme, découvrez les souffleuses Honda, une qualité et une fiabilité inégalées. Nous avons des souffleuses éco-énergétiques, robustes et fiables pour rendre votre hiver beaucoup plus agréable et contrer les tempêtes. Chez Moto du Charme, nous sommes aussi équipés des génératrices Honda, la marque de génératrices portatives la plus vendue au monde. La meilleure pour vous réchauffer ou vous éclairer à tout moment. Que ce soit pour un achat de VTT ou de produits mécaniques Honda, Moto du Charme est votre concessionnaire de référence.
Messe de Noël à Sainte-Béatrix. Célébrons ensemble la magie de Noël le mercredi 24 décembre à 16h30 au 861A rue de l'Église. La messe sera présidée par Monseigneur Gilles Lussier, accompagné d'une chorale. Bienvenue à tous.
Chez Lustre Auto Saint-Félix de Valois, redonnez de l'éclat à votre voiture. Lavage extérieur pour seulement 20 $ sans rendez-vous. Passez dès maintenant au 4164 rue principale à Saint-Félix de Valois. Lustre Auto, propre, rapide et brillant.
À CFNJ. Voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Bon après-midi Claude, bon après-midi tout le monde.
Le Parti libéral qui s'enlise, il faut le dire carrément, et là, nouveau sondage qui a été publié dans les dernières minutes, sondage léger, le Journal de Montréal québécois là, qui nous raconte que à peine 43% des sympathisants libéraux font davantage confiance à leur capitaine Pablo Rodriguez qu'à la députée Marois Risky.
Imagine, hein? Mm-hmm. Là, il vient de la limoger totalement.
Oui.
Trop peu, trop tard, quant
oui.
à moi.
Oui.
Parce que là, c'est comme si la température monte tellement avec tout ce qui sort là, au niveau des médias. Par rapport à la campagne, par rapport au financement et tout ça, c'est comme si là, il cherchait une tête de turc en quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait penser, ben gars, flush risky.
Mais là, la journée a commencé par cet article du Journal de Montréal qui nous raconte qu'un militant libéral là, cherchait des prête-noms à 500$ pour la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Faut rappeler que dans une course à la chefferie comme ça, vous avez le droit de faire un don maximal de 500$.
Ouais.
Alors là, le gars, il dit, bon, ben moi, j'ai donné mon 500$, mais il faut qu'on ait ramassé plus de cash pour Pablo. Alors, je demande à un de mes amis de devenir membre libéral et je lui donne 500$ que lui va donner à Pablo.
Ouais, c'est et le pays, ça marche. Et le pays, quand on lit l'article du journal, les journalistes ont parlé avec ce monsieur-là là, qui a été sollicité.
Mm-hmm.
On lui a même promis son 500$.
Non, c'est un chef d'entreprise. Puis en plus de ça, on lui a promis peut-être un petit cadeau, c'est-à-dire que si jamais Pablo se fait élire de un comme chef et de deux comme premier ministre, ben son entreprise pourrait être près du gouvernement.
Et c'est parce que ça, c'est de mode à peu près n'importe quoi.
Ben là, c'est parce que ça me fait penser à l'époque de Duplessis. Là,
mais puis, dans le fond, quand on regarde, là, pour être lobbyiste au gouvernement, il y a des règlements, il faut aller chercher un permis.
Oui.
Tu sais, il y a comme toute une... Puis même les appels d'offres et tout ça. Là.
Mais là, les prête-noms, c'est carrément illégal.
C'est illégal, mais illégal encore, il ne faut pas oublier que l'autre, on parle de politique. Hein. Et moi, je le dis, que ce soit du côté de Québec ou d'Ottawa, tout parti confondu, c'est illégal, les prête-noms. Mais dans ce sens que tu peux le faire, mais fais-toi pas pogner.
Oui.
Hein? Bon. Là, ce que ça sent actuellement par rapport à ce dossier-là au PLQ, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a su en quelque part, qui l'a pas pris, puis qui a décidé d'agir pour que ça sorte au grand jour.
J'oserais pas avancer de nom, mais peut-être un opposant dans la course à la chefferie qui est fâché.
Oui, mais même à ça, Claude, quand tu regardes, parce que celui qui l'a talonné de plus près, c'est Milliard.
Oui.
OK? On va juste regarder...
Charles
Milliard, l'ancien président directeur général des chambres de commerce du Québec.
Oui.
Bon, monsieur qui a du bagou, puis qui a fait une excellente campagne. Juste le comparer, je parlerai même pas de Blackburn, juste comparer Rodriguez avec Milliard. Milliard est allé chercher pour sa campagne 192 000 $.
Oui.
C'est du fric,
oui.
Ça, là.
Oh, oui. Mais Pablo, beaucoup plus.
336 000. Mm. Alors, déjà, moi, avoir été candidat, j'aurais demandé à l'interne, sans en parler aux médias, mais à l'interne du parti, est-ce que vous pouvez faire certaines vérifications?
Si le vote a été aussi serré, comment ça se fait que le financement de Pablo est si élevé
exactement.
Par rapport à Marc Milliard qui est arrivé deuxième?
Et c'est pour ça que je te dis, ça aurait dû en quelque part sonner une cloche.
Ouais.
Et de dire, est-ce qu'on peut faire une certaine vérification? Mais là, personne n'a parlé. Ça veut-tu dire que les autres aussi qui se sont présentés candidats, il y en a eu du financement prête-nom? On peut se poser la question.
Oui, hein? On peut se poser. Le doute est semé. Là.
Ben, effectivement. Écoute, ce qu'on voit aujourd'hui, là, il me semble que je revois, puis ça, je l'ai suivi assidûment. Je suis assis devant la télévision, puis je regarde la commission Corbeau. C'est du copier-coller
de
ce qui est sorti à ce moment-là au niveau de tout ce qui concerne le financement des partis politiques.
Donc, il n'y a pas eu de transformation à l'intérieur du Parti libéral. C'est un constat qu'on peut faire. C'est aussi sale que c'était.
Puis je peux te dire que ça peut toucher d'autres partis.
Ah,
tant que ça ne sort pas sur la place publique.
Ah oui.
Nous autres, on est clair.
C'est sûr.
Parce qu'il ne faut pas oublier, là, devant tout ça, là, on a le mot politique. Fait que ceux qui se disent que la politique, c'est plus blanc que blanc, là, c'est pas...
Celui qui se frotte les mains actuellement, c'est François Legault. Il est content parce que le spotlight n'est pas sur lui pendant ce temps-là.
Ça, d'une part. Ouais. Mais il y a aussi, comme je discutais avec les gens ici au service des nouvelles, PSPP, il se frotte les mains.
Oui, également.
Ça fait l'affaire de bien du monde.
Ça fait l'affaire de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui commençait à se faire, disons, presque chauffer par le Parti libéral dans les sondages.
Exactement.
On sait très bien qu'on a vu un sondage Palace Data qui est sorti au début de la semaine. Mm-hmm. Je crois qu'il nous montrait que le Parti libéral reculait.
Mais tu sais, il reste une chose aussi. Puis tu sais, quand je dis
la semaine passée, je pense le Palace.
Je dis pas que tous les partis font du financement avec prête-nom et tout ça. Mais quand on regarde comment ça se passe, moi je trouve actuellement que autant le premier ministre du Québec, chef de la CAQ, celui du PQ, sont quand même pas trop cochons.
Non.
Hein? Ils regardent aller à la parade.
Oui.
Là. Oui. Mais ils pourraient fesser dans le tas, comme
on dit.
Mais ils sont comme...
C'est parce qu'ils disent, est-ce qu'on peut-être nous autres aussi, on a des squelettes dans le placard.
Ben, c'est là. Ça. Ouais, il ne faut pas que tu lances la boue trop vite. Là.
Et là, le cas Marois Risky.
Ouais.
C'est parce que Marois Risky, il faut rappeler que c'est probablement la députée la plus populaire du Parti libéral du Québec. On vient de la tasser carrément. Elle est exclue. Pablo Rodriguez l'a mis à la porte du Parti libéral. Oublions pas que son conjoint est membre du cabinet, est membre, en fait,
du caucus
du Parti libéral.
Ouais. Pablo lui a dit, ça te touche pas, ça te concerne pas, on reste amis. C'est ce qui a été dit,
C'est un bizarre de problème, là, parce que, d'autant plus que Marois Risky était beaucoup apprécié à l'intérieur même du Parti libéral.
Ben, d'une part, il faut pas oublier que Marois, son mari, Greg Kelly. C'est des amis de Pablo. Alors, outre le monde de la politique, ce sont des amis. Et là, il nomme Marois comme chef intérimaire.
Mm-hmm.
Il lui glisse entre les pattes Geneviève Hinks,
oui,
qui est une collaboratrice du côté d'Ottawa, qui l'a ramené avec lui.
Mm-hmm. Et là, on a l'impression qu'il y a eu de la chicane entre Marois Risky et Geneviève Hinks.
Ben,
c'est passé quelque chose.
Tu t'organises de quoi pour que la chicane pogne en
quelque
part?
Mais Marois Risky ne l'a pas expliqué, veut toujours pas l'expliquer.
Ben,
étant maintenant indépendante, est-ce qu'elle pourra parler?
Rappelons-nous d'une chose, Claude. Au moment où Marois Risky se présente au QG du Parti libéral du Québec, accompagné de son avocat, elle va rencontrer Pablo.
Oui.
OK? Et le président du Parti libéral du Québec. Et la seule chose qui est ressortie quand les journalistes disaient à Pablo, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle lui a répondu, je peux pas te le dire.
Mm-hmm.
Mais, rappelez-vous de la phrase, le fling-flang.
Oui. Si il y a enquête, elle ne pourra toujours pas parler pour pas nuire à l'enquête. Et là, on sait qu'elle a été rencontrée par l'UPAC.
Ben, c'est ce qui a été dit, oui.
Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, s'il y a enquête, elle pourra pas parler trop fort encore. Alors, ça sème le doute toujours. Moi, j'ai l'impression que Greg Kelly reste pas là, là, de toute façon.
Ben, en tout cas, il va se sentir un peu serré, un peu mal, je pense.
Seule déclaration de Marois Risky aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mm-hmm, c'est simplement, je la lis, la voici, « Je prends acte de la décision du chef du Parti libéral du Québec de m'expulser du caucus. » Depuis le jour de mon élection à titre de député de Saint-Laurent, je représente mes concitoyennes et mes concitoyens avec dévouement et rigueur. Je tiens à leur réitérer et à leur assurer que je les représenterai avec la même hauteur et ce, à titre de député indépendante. Ça s'arrête là.
Et ce qu'elle avait déclaré, Mme Ritsky, parce qu'on lui avait demandé à l'époque si la chefferie l'intéressait, et elle avait dit « Je vais compléter mon mandat,
oui,
et pour le scrutin de 2026, mm-hmm, je serai pas là. »
Non, elle veut s'occuper de sa famille.
Donc là, ce qu'elle veut faire, c'est, à la lumière de ce que tu viens de nous lire...
Terminer son mandat.
Elle va remplir son mandat. Alors, ça va être assez...
Pendant ce temps-là, ce qu'on apprend aussi aujourd'hui, c'est que Pablo Rodriguez a amorcé des discussions avec sa chum Geneviève Hinks pour la réintégrer dans ses fonctions de directrice de cabinet.
Y as-tu vu ce qu'elle a répondu?
Geneviève Hinks?
Hein? Elle a dit, ben écoute, laisse-moi un petit peu de temps, là, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'elle poursuit en diffamation Marois Risky.
Ouais.
Mais si elle sait vraiment des choses, là, par rapport à la prise de bec qu'elle a eue, mm-hmm, avec Ritsky, là, faut qu'elle fasse attention.
Oui.
Hein?
Surtout s'il y a une enquête, elle peut pas trop s'avancer encore. Là, c'est ça.
Fait que, tu sais, en quelque part, là, non, ils sont pas... m'a dit qu'ils ont hâte que les vacances de Noël arrivent, eux autres, là.
Est-ce que tu crois que Pablo Rodriguez pourrait démissionner avant les fêtes? Ça se pour... Si l'hécatombe se poursuit?
Ben, avant les fêtes, non. Tantôt, il y a quelqu'un qui m'en parlait ici, puis j'ai dit non, je vois pas ça là, mais ça va pas... peut-être s'étirer longtemps au retour des fêtes.
C'est parce qu'on devrait avoir un résultat d'enquête là, au mois de janvier.
Oui, puis même à ça, les hautes instances du PLQ, là, s'ils ne changent pas d'idée, ils ont demandé un congrès spécial puis peut-être un vote de confiance.
Ouais.
Alors, si on chemine vers ça, est-ce qu'il va attendre de se faire pousser ou quoi?
À la lumière de ce qu'on voit dans le sondage léger qui vient d'être publié, là, 43% des sympathisants libéraux font davantage confiance à leur chef qu'à Marois Risky. C'est pas énorme, là. C'est pas énorme pour Pablo Rodriguez. En tout cas, ce sera à vérifier, à suivre, là, mais c'est une saga qui se poursuit, Jacques.
Puis où c'est rendu, je termine avec ça, là. Même si quelqu'un voulait le tasser, se présenter à la place, là. Le dégât est fait, là.
Ah, oui, c'est sûr. Hein? Puis il y a les élections qui s'en viennent l'automne prochain.
Chercher un sauveteur, là.
Puis peut-être même, il y a des gens qui commencent à entrevoir peut-être une élection précipitée au printemps.
Il y a des rumeurs.
C'est
là.
Des rumeurs.
Oui, c'est ça.
Merci, Jacques.
Salut.
Voilà, c'est déjà tout en ce qui me concerne. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Il y a la série T-shirt Jeans Basket à ne pas manquer à CFNJ dès 18h avec les frères Baudry aujourd'hui. Je remercie les collaborateurs à l'émission, Michel Arnois, François Morin, ainsi que Pierre Jubinville et Jacques Plante. Dans un moment, c'est Justin Lapierre qui sera là pour vous présenter le 5 à 6 strades de CFNJ. Nous, on sera là demain à 16h. Bye-bye!